Madame la République française, aurais-je le droit de dire ce que je pense? Si ce n'est pas le cas, je le prendrai comme le devoir de ma conscience. Vous savez bien que nombre de gens ne se reconnaissent plus dans la France et préfèrent s'enfuir au loin pour pouvoir y tenter leur chance. Votre république d'exclusion est une honte pour la nation, tout comme celle d'intégration qui va céder sous la pression. Vous n'avez point les armes qu'il faut pour pouvoir taire une conviction, ouvrant les vannes d'une folie que vous ne pourrez point contrôler. L'identité de tout un peuple ne peut s'écrire sur ce papier, même plastifié, les droits de l'homme ne pourront plus être protégés.
Canal Sud 92.2, bonjour tout le monde. Pour se changer un petit peu les idées, voilà une nouvelle. Une nouvelle qui a déjà un paquet d'années, que j'appellerai Grenade 1985. Et vous allez voir rapidement pourquoi je place cette nouvelle à contre-histoire. Je vous l'avais déjà d'ailleurs raconté du temps où je tenais le micro d'une autre émission. Mais voilà. Grenade 1985. Il y a 10 ans, en grande pompe, on enterrait le caudillo, ce grand mainteneur de l'ordre moral. Les mœurs avaient évolué vite. Elles évoluaient encore. À Las Adelfas, une boîte de la Carrera de Daro, Dolores Garcia, assise à une table, buvait du whisky. À peine ses copains et copines contenaient-ils sur la piste cirée où se reflétaient de mièvres lueurs de lampadaires. L'orchestre jouait un rock dont le rythme pénétrait les corps, violant les tympans et cognant étrangement au creux des estomacs. Le batteur, en transe, s'enveloppa de gestes assourdissants, enchevêtrés, imprévisibles. Le rockeur vociférait d'américaines paroles qui, si l'on en croyait ses grimaces provocantes, traduisait une inextinguible révolte. Franco était bien mort. Était venu le temps de la movida. Dolores, après avoir achevé son premier scotch, quitta la table pour se mêler à la bande des amis qui, sur la piste, se démenaient hystériquement. On ne s'abandonne pas comme ça au torrent du rythme. Il y faut quelques précautions. Elle se déhancha timidement, puis bientôt cahota avec moins de retenue, tandis que ses bras imploraient, menaçaient, agressaient, et que ses pieds, d'abord glissants, crépitaient selon le taconeo qu'imposaient les percussions. Comme elle ne portait pas de soutien-gorge, ses seins brimbalaient délicieusement. Une ineffable impression de libération. Sa copine, Nieves, se frottait carrément contre la poitrine de Chucho, lequel indécemment balançait son bassin d'avant en arrière, simulant devinez quoi. La danse, n'est-ce pas de la fornication sublimée? Concepcion et Pilar, seules, chacune de leur côté, évoluaient avec moins de véhémence, mimant avec des gestes coulés la séduction, comme si elles eussent voulu embobeliner le mal qui les aurait brutalisés. Bah, des jeunes badins, chahuteurs, libertaires, qui ne s'embarrassaient pas de précautions rhétoriques pour se demander les uns aux autres si éventuellement, afin de terminer la nuit agréablement, une nuit, pas plus. Des amis tous à l'abri de ces passions morbides qui paralysent. Des amis sérieux au demeurant, qui, fort rarement, fumaient du hache. Dolores, malgré son envie de s'adonner frénétiquement à la danse, éprouva soudain comme un remords qui la retint dans ses exhibitions. Elle pensa à sa mère. Elle n'avait pratiquement connu que celle-ci depuis son enfance. Son père était mort presque en même temps que le caudillo. Il n'avait pas supporté l'instauration du régime parlementaire. Un stress qui aurait finalement provoqué l'infarctus fatal. Allez savoir. Basta. Ça n'intéressait plus personne, ces histoires de guerre civile, de franquisme, d'après-franquisme, que des vieux s'obstinaient encore à rabâcher. Hier soir, donc, sa mère l'avait grondée. Une scène sans éclat de voix, des reproches gênés plutôt, tout au plus des suggestions formulées à voix basse. Pauvre maman, tout y était passé, les fréquentations, même quand il s'agissait de filles et de garçons de bonne famille, chrétiennes, pratiquantes. Les échecs répétés à la fac des lettres, les sorties nocturnes trop fréquentes, avec retour au petit matin. Et puis, qu'était-ce donc que ces pilules que les filles prennent ponctuellement ? Ah, si ton pauvre père était encore de ce monde ! Et allez donc, c'était bien parti. On remontera jusqu'au grand-père. Il n'allait pas en boîte, lui. Avec sa guitare, il gratouillait quelques accords devant une rera encombrée de pots de basilic, derrière laquelle se trouvait bien dissimulée grand-mère, manœuvrant un éventail. Grand-père, l'apercevrait-il seulement ? N'importe. Au cours des siècles passés, maures et chrétiens, bien d'accord, étaient convenus de séquestrer les femmes. Papa, lui, ne jouait pas de la guitare. Il bavardait avec maman dans le patio, en présence des grands-parents. Ses fiançailles, car naguère on se fiançait. Mais si, et fort solennellement même. Dolores cessa de danser. Songeuse, elle revint à la table. Chucho avait commandé d'autres whisky. Du temps de maman, on ne connaissait pas le whisky. Quand papa, bien cravaté, était venu demander la main de maman, grand-mère avait servi du Malaga. À peine maman, en rougissant, avait-elle humecté ses lèvres de ce vin traditionnel. Mais que faisait ce type seul là-bas ? Près de la fenêtre. À la dérobée, il regardait Dolores. Puis, brusquement, pour ne pas être surpris, se tournait vers les larges vitres, se donnant l'air d'un rêveur qui, au lointain, contemplerait les murailles crénelées de l'Alhambra, lesquelles, en face de Las Adelphas, rougeoyaient sous la lune. Ce solitaire devait être José Lopez, qui avait obtenu une chaire de lettres par voie de concours et qui, de ce fait, irait, disait-on, enseigner à Madrid l'année prochaine. Un futur prof. Un peu coincé, le magistère. Retrouvons maman. Elle, qui reprochait à sa fille de négliger son instruction, elle était une parfaite ignorante. Licenciée S. Broderie, ça oui. Inutile de parler avec elle de Lorca. Prochain sujet de la dissertation qu'il faudrait remettre. On verra ça plus tard. alors que Mercedes, elle, allait recevoir de la part de son père un sérieux coup de main quand il s'agira justement d'analyser le romancero gitano de Di Lorca. Parlons-en des gitans. Jamais maman ne s'était aventurée parmi les cactus de ce lieu de perdition qu'était le Sacromonte, des grottes duquel s'échappaient des airs de flamenco que rythmaient de sensuels zapateros. Dolores but étourdiment son whisky. C'était d'ailleurs un double scotch qu'avait fait servir Chouchou. Elle en avait absorbé la moitié, distraitement, d'un seul coup. D'habitude, elle sirotait avec mille précautions la forte boisson afin d'en édulcorer certains effets ravageurs. Le brusque incendie de pommettes, à moins que ce ne fût une pâleur envahissant tout le visage, les fous rires qui éclataient sans raison, les gesticulations anarchiques, ou alors des torpeurs, des nausées, des courses éperdues vers les toilettes sous les railleries des copains. Eh bien, aujourd'hui, ce fut plutôt, contre toute prévision, un picotement sur les yeux, avec de discrètes larmes qui se mêlèrent à la transpiration. La faute en incombait à maman. L'évocation de sa mère et de ses grands-parents, qui, au cours de la danse, avaient incompréhensiblement accaparé son esprit, l'avait troublée. Peut-être plus que l'ingestion de cet alcool. À l'orchestre à présent, les guitares, par leur crépitement, dominaient les autres instruments. Les souvenirs acquirent dès lors plus de force. Ils se confondirent avec une hallucination. Dolores vit de ses propres yeux grand-père avec une guitare, justement, pelando la pava. D'un trait, Dolores acheva son scotch pour dissiper la vision qui avivait un remords difficile à définir. Quoi ? Un remords ? Et si ça leur plaisait, aux aïeuls, de vivre ainsi, asservis par leurs hommes? En tout cas, aujourd'hui, on n'était plus au temps des morts, ni Dieu merci du très catholique Franco. Zut ! Les larmes, enflées de sanglots, germèrent plus rondes, mouillant les joues. Le whisky, bien sûr. Et non un quelconque repentir, comme elle avait pu sottement le croire un moment. Là-bas, près de sa fenêtre, le rabat-joie, en la voyant éplorer, avait fait mine de s'approcher, comme s'il eut l'attention, puisqu'elle était seule, elle aussi, de venir lui tenir compagnie. Quel culot ! D'ailleurs, elle se savait déparée, sans séduction. Brusquement, elle pivota sur sa chaise, lui montrant le dos pour le décourager. Et lui, de nouveau, par la fenêtre, contemplant les tours de l'Alhambra. Elle se retourna et furtivement, mais c'est qu'il était beau garçon, le futur prof d'université. Svelte, assez grand. Son profil se détachait sur la baie vitrée contre laquelle cognait de la nuit violette. Oui, mais quel trouble fait tout de même, ce gars. Il ne lui avait adressé la parole qu'une fois à la fac, non pas dans l'intention de la draguer, certes pas, mais pour lui proposer, à ton idée, une carte d'adhésion à je ne sais quel parti politique, le PSOE peut-être. Elle n'avait que faire de ce Felipe González et de ses militants. Si maman tolérait mal ces soirées, qu'animaient des amis par trop libertins sans doute, mais non impies, appartenant à de bonnes familles, dont les membres, y compris les jeunes, assistaient aux offices dominicaux. L'atavisme, les traditions, les convenances, ça comptait, non? Qu'aurait-elle déjà dit, a fortiori, si sa fille avait fréquenté un rouge, un tout autre dévoyé responsable d'une constitution qui avait légalisé l'inique pratique du divorce? L'orchestre cessa de jouer. Entracte. Les copains endiablés, encore sous l'aiguillon du rythme, regagnèrent en désordre la table, et Chucho, et Nieves, et Concepcion, et Pilar, et d'autres encore, les Anicetto, les Paco, les Ignacio, qui forçaient la porte du nightclub, s'agglutinèrent à la bande initiale. D'où venaient-ils donc, ceux-là, bigrement émoustillés? Des autres boîtes de la ville? Esteban de Huerga? Quoi qu'il en soit, contaminée par leur exubérance, l'assistance applaudit, s'exclama, hurla. C'est à ce moment-là que Don Guillermo, le patron de Las Adelfas, sortit de son bureau, jugeant habile de se montrer. Le rouge, lui, se tenait toujours à sa place, non concerné, le regard perdu dans les ténèbres. Autour de Dolores, on s'assit en se bousculant pour s'approprier les chaises. Tout de suite, Chucho ordonna que l'on rapportât du whisky. Ne lui appartenait-il pas, à lui, le maître de cérémonie, de conserver à un haut niveau cette bonne humeur où s'entremêlaient saillie, persiflage, impertinence? Qu'était pas ça, chata? Ça y est. C'était sur Dolores que maintenant les quolibets allaient pleuvoir. Elle pleurait, oui, elle pleurait. Et puis après, qu'on lui fiche la paix. Eh bien non, on ne lui ficha pas la paix. Surtout quand les copains, au comble de la jubilation, la virent boire encore. Quoi? C'était parce qu'elle ne supportait pas l'alcool qu'elle larmoyait? Et la voici ingurgitant, s'obstinant, se tuant. Énigmatique fille! Aucun ne comprit qu'elle vidait promptement son verre, non seulement pour se donner une contenance, mais avant tout pour ôter de son esprit les images hallucinées de sa mère, de son père, de ses aïeux. À quoi bon expliquer tout cela? Personne n'aurait compris. Surtout pas Nieves, qui pouffait de rire, comprimant son ventre de ses deux poings et qui fut obligé de se précipiter dardard aux toilettes. Peut-être le gars morose là-bas qui, dans sa direction, esquissa deux pas. Ce supplément de whisky aurait dû normalement provoquer chez Dolores un abattement définitif. Incompréhensiblement, alchimie mystérieuse, les sanglots se convertirent en un fou rire irrépressible, si bien qu'elle aussi, à l'instar de Nieves, s'enfuit vers les toilettes. Forcément. Tout cet alcool, déraisonnablement avalé. De nouveau, l'ermite feignit de s'intéresser aux ombres de l'extérieur. Bien lui en prenait. De quoi se serait-il mêlé, l'important? On ne lui demandait rien. Ou plutôt si, puisque les états d'âme de Dolores semblaient le préoccuper, on allait lui donner l'occasion de faire le psychanalyste. C'est Chucho, toujours lui, qui imagina le canular. Il alla à la rencontre de Dolores, qui y retournait à sa place. À l'oreille, il lui souffla des mots. Tout à sa gaieté encore, elle acquiesça. L'orchestre s'apprêtait à rejouer. On fit un signe au chef. Non, pas de musique disco. Un tango, plutôt. Un tango.
Azur constellé pour y finir ses rôles. Des plages un peu privées pour de vieux polissons. La misère pittoresque, la misère si drôle, qu'on écoute chez soi sur son micro-sillon. Des étudiants vivants qui sentent la potence, la vérité qui ne tient jamais qu'à un fil, et puis la peur du feu et de la délivrance. 36 ans de cachot vous font les yeux fragiles. Je parlais un peu de l'Espagne. Ruisseau de sang, derrière ton parasol, un rebelle anonyme glisse sous les arcades. Palomita mia del mi corazon, sur tes cartes postales claquent les fusillades. Des condamnés à mort qui roulent dans tes vagues, des poètes affamés qui saignent leurs chansons, des touristes fleuris comme des promenades, roses, bleues et poilues comptent leurs additions. Et le français moyen, se sentant enfin riche, achève son décor rustique et ses galons. Sur la desserte horrible, il cloue entre ses biches un fil à crisp noir à tête de taureau. Les âmes exilées qui craignent ton exil, les prêtres défroqués qui finissent au cachot, ne dérangeront pas ces sinistres débiles au cerveau ramolli coulant sous les chapeaux.
Es un pensamiento triste que se baila, prétendent les Argentins. Et de ce fait, quand dans une soirée tous les assistants s'amusent à qui mieux mieux, il suffit d'entendre les premières mesures d'un tango pour que tous se croient obligés d'afficher de funèbres visages. Alors, le renfrogné esselé, déjà naturellement doué, se devrait d'allonger encore plus sa triste figure. Tandis qu'au même moment, Dolores, tel était le plan manigancé par Chucho, se dirigeant vers lui, sémillante, allumeuse, lascive, pour l'inviter. Burlesque contraste qui assurément ne manquerait pas de sel. En outre, l'excitant inconnu, comment le solliciter allait-il réagir? Trois bandoneons clamèrent un émoi désespéré. « No te rajas, chata !» crièrent les garçons. Chucho ajouta, « Quel bout en train, ce Chucho !»« En topless !» Alors la fille, décérébrée, droguée, téléguidée, se dirigea vers l'homme. Elle quitta son chemisier et, seins nus, avançant toujours, lui alla à sa rencontre. Elle se sentait attirée, victime d'un éblouissement, d'un tropisme, d'un vertige. En même temps, elle savourait l'étrange volupté de s'enfermer dans une situation scandaleuse, de défier les bonnes mœurs, d'être dans l'impossibilité de rétrocéder vers la minute précédente où, poitrine protégée, elle passait encore pour pudique. Elle tuait maman, qui sans cesse la morigénait et qu'elle tenait pour responsable de ce malaise à base de honte qui ne la laissait pas en repos. Puis, jouant les catins et provoquant le viol, elle se suicidait. Maman et elle n'existaient plus. Dans la salle, le chahut cessa. Un silence malsain. « Oui, on peut bien rigoler. » Cette fois, on dépassait les bornes. Elle était tout près de lui, vraiment tout près. Et si insolemment aguicheuse que lui, perdant toute mesure, d'une brutale gifle, la précipita par terre. La vie renaquit au même instant. Pour qui se prenait-il le cathédratico? On allait lui faire passer l'envie de jouer les censeurs. Qu'il se shoote à la verveine et qu'il se tienne quoi? Les garçons le bousculèrent sur la baie vitrée, sa tête brisa un carreau. Dans le brouhaha, une voix émergea. C'était Don Guillermo, qui, en colère, conjecturait dans des temps rapprochés la fermeture définitive de son établissement. Les bandoneons imperturbables saccadaient des masses de désespoir. Le patron s'interposa. Les garçons, soudain gênés, reculèrent. Ce type, indécemment affalé contre la fenêtre, les troublait. C'est vrai qu'il était capable, à la fac, de susciter leur intérêt, quand, par exemple, il y a un mois, faisant, et avec quel brio, une exégèse du Quixote. Bah, sa blessure à la tempe ne devait pas être bien grave. Cependant, Dolorès, mal à l'aise, à quatre pattes comme un animal qui se tapit, tentait de retrouver son chemisier pour s'en revêtir. Le blessé, apercevant la fille, se redressa d'un bond. Il rejeta sur le parquet le vêtement qu'elle venait de récupérer. Il la pressa contre lui, écrasant sa poitrine contre la sienne. Un violon à l'orchestre gémit, comme un lion au hoquetement des bandoneons. Le garçon, transporté par le rythme, renversa sa partenaire en arrière, la releva violemment, en l'obligeant à mettre sa joue contre la sienne, puis les jambes s'en mêlèrent. Il la contraignit à le suivre dans différentes figures, tantôt la brutalisant, tantôt la caressant. Rien que pour elle, à son oreille, il prononça des mots. On fit cercle autour du couple. « Que gallardo este tío !» Elle goûtait la grande joie intérieure, très pure, de ceux qui ont la conscience tranquille. Par la gifle qu'elle avait reçue, on l'avait châtiée, et du même coup absoute. Finie la honte qu'elle avait ressentie vis-à-vis de sa mère. Elle savourait, en même temps, un plaisir moins innocent celui-là. Oui, la jouissance masochiste de la gifle, qui se conjuguait avec une extase que lui donnait l'homme en la manipulant, la tordant, la ceinturant, selon les modulations glissées du tango. Un orgasme sublimé. Combien étriqués lui apparurent les lugubres spasmes charnels que jusqu'alors ses copains, tantôt l'un, tantôt l'autre, lui avaient infligés. Et pourtant, ils étaient gentils, les copains. Alors elle pensa que celui-ci, auquel elle tendait à s'incorporer, venait d'ailleurs, de très loin et de très longtemps. Celui-ci, elle l'aimait. Elle l'aimait démentiellement, depuis quelques minutes. Il ne lui demanda pas de passer la nuit avec lui. Elle aurait été désemparée d'être obligée de répondre à l'obscène question. Elle aurait refusé. Elle aurait refusé parce que, justement, elle l'aimait. Surprenant paradoxe. D'ailleurs, il lui aurait été impossible d'éprouver un plaisir plus accaparant que celui qui, à cette même seconde, la fit défaillir, comme des secousses dans son ventre. Aujourd'hui, Dolores et maman n'habitent plus Grenade. Elles vivent à Madrid, rue Carretas, non loin de la Puerta del Sol. Dolores, après la tumultueuse soirée à Las Adelfas, ne tarda guère à épouser l'homme qui, seul entre les hommes, avait été capable de l'émouvoir jusqu'au plus profond de son être. Elle est la respectable Señora García de López. Son mari est titulaire d'une chaire à l'Université de Madrid. Vraisemblablement, sous peu, il siégera au Cortés en tant que député du PSOE. Représentant du PSOE? Quelle honte, pense maman. Pourtant, ce gendre, qui est déjà une personnalité politique, intervient dans des réunions que préside un certain Felipe González, lequel est un familier de notre roi Juan Carlos.
Juan Carlos, tout de même. Juan Carlos de Bourbon y Bourbon, petit-fils d'Alphonse XIII, désigné en 1969 par le général Franco comme roi d'Espagne.
Sans compter que plusieurs fois par semaine, un chauffeur, mandé par ce gendre attentionné, conduit maman à l'église de Las Descalzas pour qu'elle puisse assister aux offices. Et puis, toujours en Espagne et toujours en histoire, voici la putain d'Aranjuez. Que mes amis espagnols me pardonnent l'accent que je n'ai pas pratiqué depuis longtemps. Aranjuez, été 1943, Plaza de las Parejas. La Lola venait de quitter le tablao de la Taberna del Tuerto. Elle savait danser, la Lola. Son taconeo diabolique et ses vibratiles castagnettes avaient embrasé le public, lequel, reconnaissant, ne lui avait pas ménagé ses « Anda guapa !» Elle était satisfaite de sa prestation, autour de sa camarade maintenant. De fait, les applaudissements cessèrent. Sur le tablao, celle qu'on attendait, la paca, se présentait. Le tocaor, jabot de dentelle, boléro, chapeau cordouan, comme subjugué par la fille, cessa un instant de pincer les cordes de sa guitare. Puis, les frôlant, il se risqua tout de même à leur arracher une timide ponctuation. Tel un serpent lové qui juste se redresse, la paca rejeta sa tête en arrière. Son regard crépusculaire, scintillant, métallique, fixait quelque chose sur les planches devant elle, à ses pieds. À la commissure des lèvres, l'ombre mauve de la morgue.
des bras souples, curieusement retournés, cherchant à protéger le visage. Des mains aux longs doigts, figurant des sortes d'étoiles. Certains de ses doigts se crispèrent comme s'ils eussent voulu griffer. Elle esquissa un pas. Sa longue robe noire à pois blancs, cernée de volants, tressaillit. Le silence. Au pied de la paca, les hommes du parterre attendaient. Haletants, ils ne savaient pas ce qu'ils attendaient. Pourquoi donc accouraient-ils tous à Aranjuez, dans ce bouge du Borgne, une fois par semaine, ces fiers à bras de la guerre civile, franquistes, phalangistes, requestes? Ces tueurs qui pendant des années avaient assassiné, torturé, forcé des femmes. Après la reddition de Madrid de mars 39, après avoir fusillé ses ultimes résistants, après avoir obtenu de la nouvelle dictature de juteuses sinécures, fraîchement démobilisées et prenant leur quartier, souhaitaient-ils recouvrer une virginité? Aranjuez, une oasis de frondaisons, des pelouses ordonnées, des avenues qui entourent les palais royaux, les perspectives apaisantes des jardins de la Isla et du Principe le long du Tage. Et ici, dans cette taverne, une créature de rêve, la Paca, improvisant soleares et bulerias, idéalisant la violence, sublimant le vertige sexuel. Oui, ces hommes, inconsciemment, recherchaient de la pureté. Par les portes que le gargotier laissait ouvertes, tant la chaleur était étouffante et l'atmosphère lourde de fumée, pénétrait un air tiède que l'assistance appréciait comme si c'eût été réellement de la fraîcheur. Par instants s'insinuait la fragrance des nards de quelques patios voisins. Au premier rang, Don Agustin, transpirant, entouré d'une cour d'acolytes serviles. C'était avec condescendance que toujours il narrait dans les tascas de la ville certains exploits guerriers qui témoignaient, qui oseraient en douter, de sa sereine aptitude à l'héroïsme. Il s'avérait cependant difficile, malgré les tentatives de recoupement des gens curieux, de suivre logiquement les différents épisodes de sa vie mouvementée. Aurait-il été, avant 36, comme d'aucuns avec perfidie l'insinuaient, journaliste à la Libertad de Madrid, provoquant alors, dans les cafés de la Puerta del Sol, sa sympathie pour les communistes? Il ne niait pas. Il aurait été là, infiltré, en tant que taupe. On l'aurait ensuite retrouvé en 37 à Séville, dans l'armée du Queipo de Llano, avait le grade de teniente, rien que ça. Parmi les Italiens, les Maures, les légionnaires. Préparait-il alors les discours de son général qui, tous les soirs à 20 heures, affirmait que les marxistes étaient des bêtes brutes, tandis que les nationalistes étaient des caballeros? Beaucoup plus confirmée apparaissait sa participation au dernier assaut de la cité universitaire en mars 39. il aurait fait preuve d'un grand zèle patriotique dans ces massacres qui succèdent toujours aux victoires et au cours desquels aurait vraisemblablement péri le père de la Pâque. Celui-ci était un notaire madrilène partisan du président Azaña. Veuf depuis une dizaine d'années, il avait reporté toute son affection sur sa fille Paquita. Oui, la famille de la Paca appartenait à cette bourgeoisie républicaine libérale de la capitale. Amoureusement guidée par son père, la fille avait commencé de sérieuses études dans les instituts renommés. Par jeu, pour se distraire, elle avait désiré qu'on lui payât des leçons de danse andalouse. Don Agustin, le teniente valeureux, donnait force détails sur ses sacs qui, immanquablement, suivaient la prise des pueblos. Il prétendait que lui, pour se débarrasser des vaincus, n'utilisait jamais les armes à feu. Il se servait d'un poignard. En effet, n'importe quel couard peut tuer avec un revolver. Il suffit, n'est-ce pas, d'appuyer du gras de l'index sur la détente. Tandis que le maniement d'une lame, qu'on cloue dans un sein gauche, suppose de la part du justicier de la virilité. L'arme blanche est, par excellence, l'arme du macho. Naturellement, celui-ci se doit d'inviter le vis-à-vis à se défendre. Sinon, il encourrait l'opprobre de tout homme qui hait les capons. On dirait que l'adversaire, atterré par sa défaite, n'a pas toujours un couteau à sa portée pour parer. Or, à la guerre, on a rarement le temps de se mettre à la disposition d'autrui. La guerre en dentelle, c'était bon au siècle passé. De toute façon, lui, Don Agustin, qui tuait noblement en visant le cœur pour ainsi rendre hommage à l'ennemi, avait la conscience tranquille. Désormais, quand chez lui on lui rendait visite, il n'hésitait jamais à montrer sa collection de poignards tolédans, aux manches artistement ciselées, simulant même plein de verve la façon de s'en servir. Notamment lorsque, pour honorer l'antagoniste, on pointe vers le cœur. Éviter les côtes exige de l'art. Les maladroits sentent le fil de la lame scier de l'os. Quant à planter l'arme dans un abdomen en remontant ensuite, non, ce n'est pas digne d'un macho. Le blessé agonise horriblement. Surtout si, sadiquement, en fouillant les viscères, on cherche à accroître ses souffrances. Don Agustin se révélait cocasse quand il relatait les scènes de viol qu'il avait commis après les victoires. L'apanage des vainqueurs, non ? Mieux, la récompense des guerriers de la bonne cause. Et puis, ces femmes et ces filles étaient les femelles de la racaille rouge, laquelle de son côté se livrait au même divertissement, disait-on. Naturellement, il ne laissait jamais de confesser ses peccadilles à Don Bernardo, le bénédictin aumônier, son directeur de conscience, qui lui accordait fort naturellement l'absolution, sans tergiverser, quelle que fût la réponse à la rituelle question. Combien de fois, mon fils ? Et voilà donc, à chaque fois le pénitent redevenu innocent comme l'agneau, candide comme le nouveau-né, blanc comme le lys que portent les madones, prêt à recommencer. Tout au plus, Dom Bernardo le traitait-il de temps à autre, amicalement, de bribon. Si par ailleurs le dit aumônier bénissait le bataillon auquel appartenait Don Agustin, c'est qu'il s'attendait, d'ores et déjà, à attendre dans son confessionnal improvisé des aveux propres aux héros qui font la guerre. Bien, le guerrier était un bon chrétien, qui pour rien au monde n'aurait manqué l'office dominical, ces messes épiques qui se célébraient sur des planches soutenues par des tréteaux, tandis que sifflaient les balles. L'épouse de Don Agustin, Doña Pilar, avait péri sous un bombardement tout au début de la guerre. Qui étaient les instigateurs de ce pilonnage? Les Rouges, pardi, de telle sorte que le mari, inconsolé, s'appliquant par la suite à humilier des femelles républicaines, ne faisait que venger sa défunte épouse. Il donnait, avec esprit, de piquantes précisions qui déchaînaient les rires gras de son auditoire. Rares étaient les vierges, confiait-il. Certaines larmoyaient silencieusement, d'autres faisaient le signe de la croix, d'autres encore n'arrêtaient pas de gueuler en appelant papa et maman. Papa ne risquait pas d'intervenir, surtout si quelques instants auparavant il avait reçu un coup de poignard au cœur. Parfaitement au cœur. Quant à maman, trop vieille et laide pour être immolée comme la fille, trop titubante pour s'opposer, elle n'était qu'un témoin hurlant, ce qui ajoutait un supplément de sel à la récréation. Don Agustin était impayable. Une fois, une gamine de 15 ans avait essayé pendant la mêlée sur les azulejos de l'émasculer avec justement l'arme dont il s'était débarrassé, comme ça, à côté de lui, pour être plus à l'aise. Dieu merci, à peine l'avait-elle égratignée au ventre. Elle gigotait comme un lombric, tant et si bien qu'il n'y avait pas eu moyen. À contre-cœur, il avait été obligé de l'assommer. Cette garce de fille, tout de même. Là, les courtisans ne riaient plus. Quoi ? Don Agustin aurait pu être mutilé ? Dans les tascas de la ville, il ne rechignait pas, parmi ses nombreux fidèles, à dégrafer son pantalon et relevant un pan de sa chemise, il daignait montrer son ventre. Lui, le brave, avec simplicité, livrait son intimité. Les poils du pubis, sa verge au repos, qui avait été si vaillante. On s'approchait avec respect, on retenait sa respiration, on devinait, dans de l'ombre, une ligne rose, zigzagante, duveteuse, la cicatrice de la blessure que lui avait infligée la pouliche rétive. Une blessure de guerre. Don Agustin était un authentique héros. Honnête, il allait jusqu'à reconnaître les vertus de l'adversaire. Il éprouverait même pour cette fille, à peine nubile, disposée à lui résister jusqu'à la mort, une sorte de respect rétrospectif. Soit, tout ça est bel et bon. N'empêche qu'en ce moment, ici, à Aranjuez, dans cette taverne de Tuerto, la paca l'hypnotisait. Sentiment étrange, fluide, jusqu'alors inconnu, qu'il ne parvenait pas à analyser. Alors, pour se donner une contenance et ne pas passer pour un inconditionnel transi de la balaéora, il fumait de longs cigares malodorants et vidait maintes coupes de manzanille, lançant loin à terre entre deux rots des jets étirés de salive brunâtre. Il se flattait d'être l'amant de la Pâque. Quoi de plus normal pour un veuf en butte à sa virilité? Pourquoi la danseuse sublime, en vertu d'une fade morale bourgeoise, aurait-elle démenti? Partager le lit avec un héros? Par quelles extases devait-elle être honorée? Supputaient des rivales jalouses qui, de leurs ongles, lui auraient volontiers crevé les yeux. D'ailleurs, après le spectacle flamenco, quand les bandoneons auraient remplacé la guitare, Don Agustin ne manquerait pas de danser avec elle un tango, multipliant jeux incendiés de jambes emmêlées et torrides renversements. Et le cercle d'applaudir. En fin de soirée, la Paca, narguant, quitterait la salle ostensiblement accrochée au bras du glorieux vétéran. Soudain, le tocaor accentua son morse incantatoire, tandis que le cantaor lançait une sorte de gémissement primitif. Alors la balaora crépita du talon, frappa des paumes, s'enveloppa d'une broussaille de gestes. Par moments, son visage se noyait dans la brume de ses cheveux. Elle exorcisait pour échapper à quelque démoniaque menace. Puis elle se figea dans une immobilité hiératique, délivrée. Les hommes essayaient de la suivre dans son rituel, tantôt femme tourmentée, tantôt déesse fascinante, tantôt... La voilà maintenant animalement bouleversée sur des hanches cahotantes. Don Agustin, lui qui se vantait tant de ses bonnes fortunes, admirait. Et pourtant, il n'aimait pas admirer. De la faiblesse. Quoi? Cette femme l'envoûtait. À son insu, le venin de la passion pénétrait le sang de ses veines. Ce soir, indigente apparut sa tangante exhibition. Quand avec la menthe et après les transes du flamenco, les bandoneons sanglotèrent une pathétique comparsita. Toutes ces coupes de manzanilla qu'il avait ingurgitées, la cavalière, mobilisant tout son talent, s'efforçait de le guider. Soudain, des spectateurs qui faisaient cercle, une voix blasphéma. « No tienes vergüenza, puta, que te sobe el asesino de tu padre ?» S'empara de l'imposteur. D'un coup de poing, on le jeta à terre, on le tira par les jambes, on le traîna dans le patio. Là, des fidèles, pour complaire à leur maître, lui triturèrent les dents à coups de talons. Don Agustin laissa faire un moment. Il ne voulait pas désobliger ses féaux, qui, à l'envi, essayaient de lui être agréables. Du sortilège du flamenco, il fallait bien se délivrer. Bientôt, magnanime, d'une voix forte, il ordonna qu'on pardonne. Qui était donc l'imprécateur qui s'autorisait à outrager la Pâque? C'était Diego, l'ancien clerc et ami de son père. Que faisait-il au milieu de ces suppôts nationalistes? Voulait-il ce soir, une bonne fois pour toutes, renseigner la fille? Dans les yeux de celle-ci, passèrent des fulgurances. Vite elle se reprit. Mutine, elle se pelotonna en souriant contre la poitrine de son macho. Enfin, elle savait. Le lendemain, on retrouva Don Agustin, le héros de la guerre civile, qui, pour la première fois de sa vie, aimait d'amour une femme. Comme s'il eût été, en quête d'une rédemption, gisant sur les azuleros, ensanglanté de son salon, un poignard toledan planté dans le ventre. Il avait dû agoniser de longues heures. Comme tous les soirs après les danses de la taverne, la Paca avait accompagné chez lui l'homme vacillant, lui susurrant une fois de plus qu'elle se donnerait à lui. Elle s'était emparée d'un poignard et le fil de la lame bien en haut, du sexe vers l'estomac, fourrageant. Elle avait vengé son père. Son père, lui, était mort d'un coup porté au cœur. Non. La Paca n'avait pas été la maîtresse du reître, ni d'aucun homme d'ailleurs. Pendant des mois, patiemment, elle s'était montrée en public avec lui pour tenter de savoir. Madre, intuitive, femme, elle avait deviné que le matamor était devenu pantin. Son amie, la Lola, était au courant de ses desseins. On dit que la Paca vivrait encore à Toulouse, vieille dame digne. Après avoir fait justice, elle serait parvenue par de mystérieuses filières à passer la frontière. En France, des réfugiés du front de Catalogne l'auraient aidée à s'intégrer. Voilà pour notre voyage pascal en Espagne. Je vous remercie de votre écoute. Vous pourrez retrouver les coordonnées de ces histoires qui ont été écrites par Jean Couillens il y a 40 ou 50 ans, je ne sais plus. Je vous retrouverai ces détails précis que je mettrai sur la page de l'émission. Merci à vous, prenez soin de vous et patientez. Thank you.